Vous écoutez
RMC. RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Mindy.
Salut à tous les amis, bienvenue dans le RMC Poker Show. On est là comme tous les dimanches de minuit à 1h et on est là avec Moundir. Salut Moundir.
Salut mon Daniel, j'espère que tu vas bien. L'été approche, c'est kiffant Vegas.
Oh, enfin, l'idée.
Je pense déjà à Vegas, j'ai booké l'avion et tout.
C'est, en même temps, à Vegas, tu penses fin août pour l'année d'après. Donc,
J'ai rêvé que j'avais un bracelet, je te jure.
T'as vraiment rêvé de ça?
Ah, j'ai rêvé.
Je jure que t'as rêvé de ça.
Je me suis levé en transpirant, mais c'était exceptionnel. Alors, tu vois, il paraît que. Généralement, tu vois, les rêves deviennent réalité, tu vois. Donc,
ah bon? Oh là là.
Ah ouais. Okay. Ah, j'en ai réalisé quelques-uns déjà.
Et tous les rêves que tu faisais avec les Miss France et tout, ça a été réalité après?
Ah, j'en ai rencontré quelques-unes. Hein. J'en ai rencontré quelques-unes et je les salue d'ailleurs.
Le programme du soir. Eh bien, ça y est, nous connaissons le nom du nouveau membre du Team Wina. Il a été dévoilé, c'était lundi, 13h.
Bah, oui. Ils étaient tous branchés. Hein.
Alors, beaucoup de gens étaient surpris.
Ouais. Hein. Exactement.
Est-ce qu'on s'attendait à quelqu'un de plus connu?
Bah,
peut-être,
oui.
Mais en tout cas dans le monde du poker.
Très connu.
Et dans un certain monde du poker, celui des hautes limites, c'est effectivement un joueur à forte notoriété. C'est Emilien Pitavi, donc c'est l'ami de Calam.
Oui,
de
qui est coach.
Voilà.
Coach aussi.
Ça a été son coach, évidemment, parce qu'il ne coach plus maintenant. Il sera avec nous tout à l'heure. En fin d'émission, on va parler avec lui de cette nouvelle vie. Alors moi, perso, je ne m'attendais absolument pas à ce que ce genre de profil intègre une team.
Pour moi,
c'était un pistolero.
Ah ouais, bon, c'est sûr que dans le côté, ce qu'on va dire, le côté dark, le mec, c'est un tueur, tu vois. Ouais. Mais dans le côté populaire, je m'attendais vraiment à quelqu'un comme Alexandre Réard.
Oui, mais c'est genre une espèce de bazooka.
Voilà.
Eh ben, écoute, c'est des questions qu'on posera. Tout à l'heure, avec nous en studio, Benoît Grobo-Coppatel.
Ah, tu l'as, c'est le frérot, on est avec le frérot.
Grobo-Coppatel est une seule personne, il
Exactement.
Est là. Salut Benoît.
Bonjour.
Salut frérot.
Bonjour à vous deux.
L'un des piliers du Club Circus.
Ah bah oui.
Un des poteaux qui soutient l'architecture et ta soirée.
Ah ouais, non, mais c'est le actionnaire minoritaire.
Il paraît que quand t'arrives, il y a tapis rouge tout de suite.
Non. Tout le monde, ils accueillent les gens très très bien.
Ah non, mais ils accueillent tout le monde, mais ils accueillent mieux toi.
Non, pas vrai.
Tu sais pas, t'as gagné combien de fois au Club Circus?
J'ai fait une interview avec quelqu'un la semaine dernière et qui m'a dit que j'avais gagné 27 fois, je crois. J'ai fait 27 titres, il m'a dit.
27 titres
au circus?
Ouais. Non, mais il n'y a pas de titres.
27 tournois où tu as gagné au final, quoi.
Ouais, où j'étais premier.
Ah,
ouais,
quand même.
Premier, ouais.
Non, c'est où?
Il n'y a pas de.
Incroyable. Alors, ça dépend, parce qu'il y a eu des événements avec Capo où j'ai aussi des titres comme
la
Pro 1000, la Pro 500.
Ah oui, ça, j'ai
gagné. Enfin, il va au bout d'un tournoi, titre, je m'en fous qu'il n'ait pas une coupe à la maison.
C'est 27 victoires.
Il y a un tournoi, tu commences, tu gagnes un tournoi, c'est fort.
Ouais,
c'est bon. En combien de temps? Sur les 10 ans d'ouverture du circus?
Non. En 3 ans, les 3 dernières années, je crois.
Bah, c'est beau.
Ah, bah, tu m'étonnes que c'est toi le patron du circus.
Ah ouais.
Thierry, c'est très bon joueur.
Pareil que Thierry s'apprête à te laisser sa place.
Non.
Ah ouais. On embrasse le duo magique.
Sur la pièce tombale.
Delco, Thierry, on vous embrasse tous les deux, évidemment. Merci d'être avec nous dans le RMC Poker Show. Tu ne joues pas qu'au circus, évidemment.
Hein. Partout.
Voilà.
Quand il peut. Après le travail.
Exactement.
Oui. Marrakech, Vegas. Oui. Et le PT.
Claire Renaud sera également avec nous.
Ah, c'est génial.
T'as aimé son dossier sur la peur au poker?
Ouais, mais j'ai kiffé.
Tu t'es senti concerné par la flaque?
Alors, la flaque, ça dépend, parce que moi, je trouve que la peur, c'est un excellent sentiment. Ah, et c'est pour ça que j'aimerais
dire
plein de choses avec elle. Ouais.
On va en parler tout à l'heure. Et puis, il y a de l'actu, hein, parce que il s'est passé des choses, notamment Federall, c'est GG Poker.
Alors ça, c'est étonnant.
Leur relation. Moi, j'ai l'impression que Federall, à chaque fois qu'on a une nouvelle de lui, c'est il met fin à quelque chose.
Je sais pas s'il a besoin de
lui. Il met fin à sa carrière, il met fin à la collaboration avec machin, il parle plus à ses potes.
Ouais.
Là, maintenant, c'est GG Poker, c'est fini.
Ah, mais là, c'est pour construire une famille.
Et puis,
c'est
un mec qui décide comme ça, il dit, c'est bon, j'arrête, c'est pour les enfants. Il programme les enfants.
Ah ouais, une fois qu'il a stacké tout le monde.
Il programme tout, Federall.
Ah, mais quand t'as l'oseille, tu peux tout programmer, hein, je te le dis.
Programme. Dans la tête d'un fils, ce sera tout à l'heure avec Pierre Calam, l'ami donc du... Est-ce que tu penses qu'il a fait jouer le réseau pour faire rentrer Emilien Pitavi dans le team?
Je pense qu'il a été consulté.
Depuis longtemps, ils sont très potes.
Bah ouais, mais il a été consulté. Je reste persuadé, on pourra lui poser la question. Qu'est-ce que t'en penses?
Benoît, il paraît que t'étais au Parc des Princes cette semaine.
Oui, je vais voir tous les gros matchs à Auteuil.
C'est vrai?
Je suis un fanatique.
Mais t'es abonné?
Je suis pas abonné, mais c'est comme si l'abonnement m'appartient.
Comme au circus, hein, PSG, c'est chez...
En même temps, tu sors du circus, tu traverses la route.
C'est chez lui.
Ouais, exactement.
5 minutes.
On se gare à circus et...
Mais t'as déjà été encarté à Auteuil?
Ah oui, je suis tout le temps à Auteuil. J'étais abonné avant à mon nom, mais là, il y a quelques années, en fait, après le match contre Manchester United, là, tu sais, à la dernière minute où il y a eu la main.
2019.
Voilà.
Kimpembe.
Mon petit frère a envoyé un mail.
Une des plus grosses arnaques que nous avons eu à subir.
Voilà. Mon frère a envoyé un mail à la direction du PSG. Du coup, ils nous ont radié tous les deux.
Pourquoi?
Bah, parce qu'à cette époque-là, le Qatar, ils étaient comme ça.
Ah ouais?
En fait, mon frère a dit que chaque année, c'était pareil. On était mécontents. L'équipe n'avançait pas. Et...
Mais il l'a dit en ces termes-là ou en d'autres termes?
Oui, je sais pas. Il a envoyé un mail. Je sais pas c'est mon petit frère. Et du coup, tous les deux, on a été...
Excuse-moi. Il a envoyé, suite à cette énième déception. Ouais. Donc, on est éliminé en huitième. Il envoie un mail, genre, pour dire, en gros, j'en ai marre, vous perdez tout le temps, quoi.
Ouais, ouais, quelque chose comme ça, voilà. Et après, il m'a dit, vous êtes pas content, bah, on vous abonne. Il a dit, on vous désabonne. Il a dit, y a pas de problème. Et ils nous ont désabonnés, tous les deux.
Oh.
Il a dû envoyer un peu. Ouais. Ouais. Un peu bête aussi.
Mais c'est marrant, là, tu vois, la démarche d'écrire pour se plaindre en disant, j'en ai marre et tout. Bah, c'est vrai que le ras-le-bol, il était énormissime.
Ouais, parce
que
chaque année, c'était
parce
pareil.
On venait d'enchaîner Barcelone, Real, Manchester United sur les trois années, à chaque fois en huitième.
Non, mais c'est vrai
attends,
que.
Attends, la démarche, elle est folle, hein. D'envoyer pour se plaindre, genre service après-vente, on en a marre, vous perdez tout le temps.
Quand il te radie quoi? Pour l'année ou
non, en fait, non, parce qu'après, à Auteuil, c'est trop compliqué d'avoir des places à Auteuil. T'attends pendant,
oui,
pas
si
des
tu,
années,
si
des
tu
années,
tu une fois, c'est mort, quoi.
Oui, voilà, tu lâches.
Tu reviens plus, quoi.
Après, la chance que j'ai, c'est que j'ai des amis qui ont des abonnements et qui sont moins fanatiques que moi. Maintenant, ils aiment mieux les loges.
D'accord.
Du coup, ils vont aux loges et moi, je prends leur abonnement, tu vois.
Okay. Ils te revendent les places, ça se revend pas mal.
Ouais, moi,
ça nous, se revend c'est... moins que ces dernières années en ce moment.
En ce moment,
bizarrement,
c'est...
alors qu'on est plus fort qu'avant, mais bon, écoute. Voilà.
Ouais, mais bon.
La dernière fois que t'es venu chez nous, Benoît, Jérémy a fait les comptes parce que c'est un peu l'homme qui compte l'oseille, c'est un peu l'homme de tout, Jérémy Servin. Il dit que t'avais 500 000 dollars de gains.
Il y a deux ans.
Il y a deux ans. Et aujourd'hui, tu es à 1,2.
Mais bon.
Belle progression, n'est-ce pas?
Bah ouais.
C'est vrai.
Le travail paye.
T'as l'air serein par rapport à cette progression.
Non, c'est parce que là, en ce moment, tu l'as dit, mais en fait, je regardais pas spécialement à chaque fois ça, le nombre de gains.
Attendez à plus compter l'oseille?
Si, si, c'est pas ça. C'est que des fois, c'est des chiffres, des fois, ça veut.
Oui, c'est le cumul.
Dire. Voilà, c'est le cumul.
C'est le cumul.
Il y a deux semaines, tu fais cinquième du Poker Star Open, de l'EPT, pour un gain de 145 000 euros, mais plus globalement, si j'ai voulu mentionner le fait qu'en deux ans, il y a eu cette progression, c'est pour enchaîner avec une question, c'est qu'est-ce qui se passe dans ta période récente dans ton poker? Tu as travaillé, tu as pris un coach, qu'est-ce qui explique cette progression en termes de gains?
Là, pour de vrai, je viens juste de commencer avec un coach, mais ces deux dernières années, c'est vrai que déjà de s'entourer de personnes qui sont très forts au poker, ça
veut dire quoi s'entourer?
D'être
un groupe de travail?
Non, on va dire que c'est des amis, mais eux, leur métier, c'est d'être joueurs pro. Ça veut dire qu'on parle beaucoup de poker, comme ça, lors de soirées, où on se raconte des coups, et on progresse automatiquement.
Et ça te permet de progresser, d'en parler comme ça?
En fait, si tu racontes, il y a beaucoup de gens qui mentent des fois sur leurs coups. Si tu racontes ton coup exactement, faut pas avoir honte. Des fois, t'as super mal joué et il faut accepter la critique. Moi, la critique ne me dérange pas. Au contraire, elle fait avancer. Ça veut dire que quand j'ai des coups un peu bizarres, et je raconte et mes potes, ils se gênent pas pour me dire là, t'as super mal joué.
Moi, je trouve que c'est absolument essentiel de savoir raconter ses erreurs. Moi, j'aime beaucoup faire ça. J'aime bien dire, expliquez-moi, j'ai fait une erreur. Je trouve que comme ça, on progresse.
Et j'ai surtout évolué comme ça. J'ai surtout évolué, avec mes potes sur des groupes WhatsApp. On s'envoie les coups. Mais là, depuis, on va dire, une quinzaine de jours, j'ai commencé avec un coach.
Ça, c'est depuis ta perf.
Le coach?
Ouais.
Hugo Réoli.
Ah bah oui. On salue, très gros joueur. Il a gagné récemment.
Il avait gagné la Euroleague, je crois, à Namur, je crois.
Exactement. Exactement. Très gros joueur de cash en plus, très gros reg. Mais est-ce que le fait d'avoir... C'est quoi qui t'a fait prendre conscience de prendre des cours, par exemple, depuis ta perf à l'EPT?
Non, avant j'y pensais aussi, mais en fait je suis quelqu'un qui aime bien me mettre à, on va dire,
à
100% aussi. Ouais. Ça veut dire que si je me mets sur quelque chose, j'ai envie de me mettre à fond. Je savais que les cours, des fois il y a des choses qui sont un peu casse-bonbon, d'apprendre les tableaux, alors que moi j'ai jamais travaillé mon jeu, j'ai toujours joué à l'instinct. Alors j'attendais juste d'être prêt, je pense. Et là ça m'a donné envie, c'est vrai, de côtoyer le PT, les gros joueurs, ça te donne envie de progresser encore plus.
Et avec ce coach, tu bosses l'aspect mental?
Non, pas du tout. Mais à la force, je pense qu'à la base, le mental, c'était ma force. J'ai toujours eu un bon mental.
Oui, et puis t'es un ancien pro.
Ouais, toujours joué. Le mental, je pense, c'était plutôt ma force.
Et est-ce que tu as peur à une table de poker?
Non, pas du tout.
Ça t'est jamais arrivé d'avoir ce sentiment-là?
Non, pas peur. On peut avoir des fois un petit peu de pression quand on commence certaines tables finales.
Comme l'EPT, par exemple.
À l'EPT, ça a été bizarre. j'ai pas eu de pression, alors que c'était la plus grosse somme que j'avais jouée. J'ai eu plus de pression, par exemple, quand j'avais joué le Millennium, que c'est Omar Lakhdari qui l'avait gagné, là, pour 200 000 euros à Namur, où, on va dire, les 20 premières minutes, quand tu t'assois, t'as les paliers, t'as un petit peu de pression, et après, ça passe tout seul. Peut-être parce que la table a été télévisée, je sais pas. Alors, j'en ai fait quand même pas mal de tables télévisées, mais non, c'est bizarre, là, le PT, j'ai pas eu de pression. Mais moi, ça m'a un peu surpris, alors peut-être, je sais pas.
Alors, c'est petite passe décisive pour notre autre invité qui va venir dans la discussion dès maintenant, parce que je trouve que c'est intéressant de confronter les points de vue. Et on a beaucoup aimé le papier dont on parlait tout à l'heure sur le Life Poker. C'est Claire Renaud. Bonjour Claire.
Bonjour.
Salut Claire. Bonjour,
comment
bonjour,
ça va?
Bonjour à tous.
Oh, quel kiff.
Ça va très bien, merci.
Oui, ton article dans Life Poker sur la peur au poker, et tu as entendu, j'imagine, ce qu'était en train de nous dire Benoît sur sa progression au poker, plus visiblement sur les aspects techniques que sur le côté mental, puisque lui, il pensait que c'était un de ses atouts. Comme ça, quand tu l'entends parler et tout, quel est ton premier point de vue?
Tous les joueurs sont différents et toutes les personnes de façon générale le sont aussi. On a tous des petits softwares internes qui tournent à l'arrière de la tête. On a tous mis en place des mécanismes ou des schémas différents, certains des pensées limitantes. On a tous eu des peurs différentes qui sont plus ou moins ancrées. Il y en a qui sont légitimes, il y en a qui le sont un peu moins. Et là, de ce que j'entends, il y a une certaine confiance qui est très bien, ce qui est assez rare aussi, parce que c'est vrai qu'il y a quand on est joueur de poker et surtout en table télé, on est extrêmement exposé. On est exposé, on se met un peu à nu, on se dit mon Dieu, il faut surtout pas que je fasse une erreur, sinon il y a la peur du ridicule, la peur du regard des autres. La peur de jouer contre plus fort que soi aussi. C'est difficile.
Mais est-ce que tu notes, Claire, et même question, même question pour toi, Benoît, que au poker, bon, on parle souvent de liens et d'analogies à faire avec le sport. Bon, bah, le sportif, il est très exposé, il passe à la télé tout le temps. Le joueur de foot, il rate une reprise, elle va en tribune, il se fait siffler. Derrière, il y a des émissions où il va être critiqué pour son match, bien, pas bien. Le joueur de poker... Bon, oui, il y a la table télé. Souvent, comme on le disait tout à l'heure, on n'ose pas trop raconter son mauvais coup ou on ment parce qu'il y a beaucoup de menteurs dans le poker. Table télé, on est exposé à tout le monde, mais il y a personne qui vient réellement débriefer. Et cette peur de mal jouer, de dire mais comment les autres vont regarder, comment les autres vont dire, parce que on a tellement le niveau, c'est tellement élevé aujourd'hui que tout le monde, il y a le niveau technique, il est bien plus fort qu'il y a 10-15 ans. Donc le regard de l'autre, j'ai l'impression au poker, il est pas encore complètement admis. Je me trompe ou c'est une réalité? Claire, Benoît, ou qui veut en répondre?
Je peux
oui,
me permettre,
vas-y, Claire,
c'est par rapport, on touche directement à l'identité de la personne, on touche à son besoin fondamental de reconnaissance, on touche à un besoin d'appartenance, donc ça va très loin, on touche à l'ego, on touche à des choses qui sont extrêmement fragiles chez certaines personnes, donc c'est vrai que le fait d'être jugé pour certaines personnes, pour qui c'est important et qui n'ont pas réglé certains aspects avec eux-mêmes, ça va conditionner la façon dont ils vont prendre des décisions. C'est-à-dire que là, oui, là, j'ai pas envie, je sens dans mon fort intérieur qu'il faudrait que je fold, mais non, je vais push parce que, par bravade ou parce que ça, je vais avoir l'air plus courageux, sinon je vais avoir l'air d'un hit, je vais me faire juger, je vais tout ça. Donc c'est vrai que se détacher du regard des autres, quand on a la capacité de le faire, c'est un vrai skill, c'est un vrai talent, c'est-à-dire être concentré uniquement avec soi-même et aligné avec des décisions qui nous sont propres, aligné avec soi-même.
Benoît, vas-y, pardon.
Non, ouais, salut Claire. Moi, je trouve que ça me parle tellement. Salut, d'abord, plaisir de te recevoir parce que ça fait bien longtemps.
Merci de me recevoir, c'est un plaisir aussi.
J'ai encore un super souvenir. Bon, effectivement, peut-être que pour nos auditeurs, il y en a qui ne te connaissent pas, mais tu as participé à la première émission de poker dite télé-réalité à l'époque, qui s'appelait Poker Las Vegas, où on a pu te voir évoluer. Ensuite, effectivement, tu as joué, tu as quelques paires qui sont super. J'ai une question à te poser. Moi, j'avais un coach qui, à l'époque, quand je jouais au basket en semi-pro, qui me disait que la peur était un excellent sentiment. C'était un sentiment qui nous prouvait qu'on était vivant. Et moi, ça m'a beaucoup aidé, le fait d'avoir peur, parce qu'en fait, ça me donne une adrénaline supplémentaire. Lorsque j'ai joué les Tritons par miracle sur un tournoi à 25 000 et à 40 000, donc effectivement, de me retrouver face à ces...
En même temps, c'est pas ton oseille, donc ça.
Bah oui, mais c'est pas. Oui, c'est pas mon oseille, mais je peux te dire que tu joues pas détente, quoi.
Oui,
tu joues pas
d'accord. Détente. Mais enfin, c'est pas la même chose, quand même.
Excuse-moi, je t'ai vu jouer en free roll, t'étais pas détente non plus, toi aussi.
Peut-être, mais enfin, c'est quand même pas la même chose, je te promets.
Mais non, mais je te dis.
C'est pas ton oseille, ça n'a rien à voir.
Justement, au contraire, je trouve que la pression est plus forte. Et donc, je me dis, est-ce que la peur est forcément un côté. Il y a un côté négatif dans la peur, même si tu disais tout à l'heure que ça dépend des profils.
Non, à la base, la peur, c'est quelque chose d'extrêmement positif. C'est ce que tu dis. C'est une réponse adaptative. C'est conçu pour assurer la survie d'un organisme. Si les humains sont encore là sur Terre, c'est parce qu'il y a eu des décharges de cortisol, des décharges d'adrénaline, et que cette petite glande de l'amygdale a fonctionné. Et c'est bien développé. Le problème, c'est quand la peur prend le contrôle. Ouais. C'est quand... disons que quand on a tous... une capacité cognitive limitée, c'est-à-dire faut voir ce qui se passe dans notre espace mental comme une baignoire. Il y a un moment où ça peut pas être plus plein, ça déborde. Et si la baignoire elle est remplie de peur, voire de terreur, que le cortisol inonde le corps en entier parce que la peur est devenue hors de contrôle, c'est-à-dire qu'il y a plus d'espace dans lequel on se sent safe. Dans ce cas-là, tout ce qui va être cortisol et tous les mécanismes de défense vont devenir toxiques et vont se retourner contre le cerveau. Ça va plus être un avantage. Donc c'est important d'en avoir un peu, de reconnaître que c'est important, et ça j'aime beaucoup, c'est une approche qui est importante, c'est-à-dire la normalisation du fait d'avoir peur avant de commencer une table finale, avant un enjeu important. Bien sûr qu'on a peur, on identifie ce qui se passe dans notre corps, on identifie qu'on a les mains moites, peut-être le ventre qui se noue, ok, on met ça dans la case, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que ça se poursuive ou que la peur prenne le dessus jusqu'à prendre des décisions.
D'accord.
Mais sinon, c'est effectivement quelque chose de très important. Et puis, c'est parfois aussi un indicatif de là où il faut aller. Mais là, je parle dans la vie en général. C'est-à-dire que parfois, on est face à un challenge, on est face à quelque chose, on est mort de trouille. Ouais. Et pourtant, c'est la direction dans laquelle aller. Donc, la peur va aussi agir comme une sorte de phare. C'est-à-dire que quand on stagne dans sa vie, quand on a une impression, tout du moins, de stagnation, de tourner en rond, si on a peur de faire quelque chose... C'est bien souvent parce que c'est exactement là où on doit aller.
La première des peurs au poker que tu identifies, c'est quoi ? C'est de façon banale, celle de perdre de l'argent ?
Oui,
si on devait faire un hit parade.
À mon avis, oui. C'est probablement effectivement la plus commune, mais dans ce cas-là, ça veut dire que la personne généralement va jouer au-delà de ses limites. Donc dans ce cas-là, la peur, elle est légitime.
Toi, tu disais, Benoît, que tu n'avais pas trop connu ce sentiment. Mais si on dit peur du regard de l'autre, de la façon dont tu joues, peur de perdre de l'argent et tout, c'est quelque chose quand
non,
même que tu,
en fait,
tu dois te parler.
Je pense plus comme Moundir. Moi, la peur, je la transforme en adrénaline. Ça veut dire que ça me donne une motivation supplémentaire. Après, moi, j'ai pas d'ego. Ça veut dire que même si, par exemple, je joue mal, je me dis, si quelqu'un vient me critiquer, je lui dirai directement, écoute, je suis pas un robot, je suis pas le meilleur joueur du monde. Je lui dirai directement ça. J'essaie de jouer le mieux que je peux, mais on fait tous des erreurs, on est des humains. Je pense qu'il ne faut pas avoir d'ego, surtout. Quand on commence à se dire, oui, je joue par rapport au regard de l'autre, ah non, on ne va pas bien jouer son jeu. Moi, je joue mon argent, je joue mon jeu.
C'est marrant parce que l'année dernière, forcément, moi, ça ne m'est pas souvent arrivé. Je n'ai pas le niveau pour être à une table télé. Il se trouve que c'est quand même arrivé l'année dernière à Aix, où sur le D2, on m'a dit, tu vas aller en table télé. Et... D'abord, j'ai eu ce sentiment-là, en me disant hey, « Merde, tout le monde va voir que je joue mal et tout ça. » Mais en 5 minutes, je l'ai évacué.
Ah ouais, hein.
Alors que moi, ça m'arrive pas souvent d'évacuer ça. Moi, je suis souvent en pression. Alors, pas sur ce qui concerne mon métier, mais les à côté. Même un tournoi de tennis banal, je peux flipper. Le poker, ça peut m'arriver. Mais là, je me suis dit, mais en même temps, qu'est-ce que t'en as à foutre ? Tout le monde le sait, de toute façon, que t'es pas un super joueur. Donc, vas-y et amuse-toi. C'est une des rares fois où j'ai été en détente. C'est justement... Au moment d'arriver à la table télé,
ouais,
que je l'ai été, c'est quand même très curieux. J'avais inversé le truc. Mais sinon, moi, je comprends parfaitement la peur au poker. Oui, je la comprends. Que ce soit de perdre de l'argent, que ce soit de prendre la mauvaise décision, c'est assez difficile de jouer complètement libéré. Moi, ce que j'admire chez les joueurs, c'est quand ils arrivent à jouer libéré. C'est quand ils arrivent à se libérer de.
Après, il y a aussi des possibilités. Par exemple, la personne qui est un peu stressée, bah, elle peut écouter de la musique. Il y a des.
Moi, jamais de la vie. J'ai l'impression que ça me sort, que je suis ailleurs si je écoute la musique.
Moi, par exemple, des fois, si je suis énervé, bah, j'écoute ma musique et je me mets dans ma bulle et. Je pense à autre chose.
Moi, Claire, par exemple, est-ce que le bad beat peut engendrer la peur? Tu sais, quand un tournoi se passe bien, par exemple, dans les premiers jours et que la personne commence à prendre un 80-20 et que l'autre le frappe, est-ce que ça peut engendrer une peur, par exemple, pour les joueurs?
Totalement. Oui, totalement. On s'est dit, ça y est, je suis choumouné, c'est bon.
C'est ce qui se passe.
Ça y est, ça va plus marcher. Oui, bah oui.
Il y a un corbeau dans la pièce.
On n'a pas le rebond noir en ce moment. Je vais sauter. Je me fais craquer les as tous les jours. J'entends ça tout le temps.
Ça, c'est totalement irrationnel. C'est vraiment un truc qu'il faut maîtriser.
Parce qu'en fait,
C'est totalement irrationnel. Et c'est ce qu'on travaille aussi en coaching ou en thérapie. C'est la notion d'accepter l'impermanence. C'est d'accepter, c'est une forme de, disons, c'est cultiver une forme de paix que je vais associer en synonyme à force. C'est la même chose. Quand quelqu'un est en paix, il est extrêmement fort. Et arriver à naviguer dans l'impermanence, c'est quoi de plus impermanent qu'une table de poker où, à un moment, t'es chip leader et 10 minutes après, tu parles aux pigeons. Donc, c'est vrai que c'est apprendre à faire ça et réussir à se mettre dans une position dans laquelle tu n'es pas une victime éternelle où tu te dis non, ça y est, voilà, je suis noiro, ça y est, voilà, gna gna gna, tous les autres, de toute façon, c'est pour tous les autres et tout. Il faut garder en tête que les pensées créent la réalité aussi. Ça, c'est très important. Bon, là, on va aller peut-être dans un domaine qui est un petit peu moins scientifique. Mais c'est la vérité. Une personne qui est persuadée, d'être choumouné, aura plus peur, prendra moins de risques de façon objective et jouera moins bien. Derrière, ce qui va engendrer nourrir son cercle et sa croyance, comme quoi effectivement il est choumouné et il y a des phases et c'est vrai, c'est aussi un jeu de hasard.
Tu crois pas, Claire, tu crois pas que sur ces dernières années, ce concept-là que tout le monde comprend, on voit très bien de quoi tu parles, mais chez des joueurs d'un certain niveau comme Benoît ou même Moundir, sans être pro, il a tellement l'habitude de jouer. Il faut que ce côté irrationnel, on l'a tous plus ou moins maîtrisé. On sait tous que bon, faut arrêter de faire ce genre de conneries, comme quoi t'es noir et machin. Je sais pas, Claire, quel est ton avis là-dessus?
Ah, je pense qu'il y a eu une évolution incroyable dans le milieu du poker.
Ouais,
maintenant, les très bons joueurs, ce sont des athlètes. Ouais. Ben voilà, il y a un moment où on sait tous comment ça se passe.
C'est un peu fini. L'histoire de la main fétiche, c'est un peu terminé. L'histoire du petit gris-gris.
Trois petites superstitions.
Oui, l'histoire du petit gris-gris qu'on met sur les jetons, là, et tout. Moi, quand je vois ça, j'ai envie de dire, c'est bon, t'arrêtes, s'il te plaît, tu rentres chez toi.
T'as tes nœuds sur tout, toi.
Ah, les mecs qui posent le gris-gris et tout, j'ai envie de lui dire, écoute, tu peux changer de table, s'il te plaît, parce que là, ça suffit maintenant, quoi.
Le sel marin. Celle de Camargue.
Tous ces trucs-là, c'était, ok, il y a 15-20 ans, on admettait ce genre de choses, mais où le mec, je te jure, le gars qui gagne, dit, j'ai ah bah ouais, mais c'était ma main fétiche.
Tu sais quoi?
Mais ferme ta gueule, je te jure, ferme ta gueule. Dis donc. Avec ta main fétiche, parce que vraiment.
En même temps, t'es ravi de l'avoir à ta table, hein, celui qui pose le gris-gris et qui joue ses mains.
Ah non, je suis
fétiches.
Pas ravi parce que c'est souvent le chatard qui me sort.
Claire, est-ce qu'on va te revoir, par exemple, sur le poker? Est-ce qu'on. Du fait que.
Déjà, on la revoit avec ce super article.
Bah, c'est génial. Non, mais.
Voilà. Je trouve que ma place maintenant, je suis très heureuse là où je suis.
D'accord.
Avec grand plaisir, moi je refais un tournoi. J'ai jamais été une grande joueuse. J'ai toujours été une joueuse très très moyenne. Mais là, c'est vrai que la vie que j'ai maintenant, où je suis à plein temps thérapeute et coach, c'est quelque chose qui pour moi est
Mais tu es thérapeute et coach, mais pas que poker. On est bien d'accord que tout le monde.
Non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, voilà. Non, pas du tout. Mais la moitié, à peu près de ma clientèle, parce que j'ai beaucoup travaillé en bouche à oreille, ce sont des musiciens de très haut niveau, des musiciens classiques.
Ah ouais.
Et je peux relier ça, oui. Et je peux relier ça aux joueurs de poker dans le côté athlète, dans l'importance de tout ce qui est lifestyle, prendre soin de soi, de l'importance de la qualité du mental, dans la force mentale, parce que c'est quelque chose. Enfin, je veux dire, il faut dealer avec la peur au quotidien quand on est un grand pianiste et quand on doit monter seul sur scène pour jouer de mémoire une pièce très compliquée et qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous juger dans la salle, il faut avoir un mental en acier, avoir réglé aussi beaucoup d'autres problèmes, parce qu'il y a beaucoup de peurs qui, voilà, sont ancrées dans un... disons que ce sont des mécanismes bien plus anciens. Donc il y a intérêt d'avoir une certaine forme de paix et d'alignement par rapport à qui on est, une certaine hygiène de vie, voilà, et d'accepter aussi l'impermanence, parce qu'il se passe aussi pas mal de choses. Mais ce sont des athlètes aussi.
Donc tu étais beaucoup avec des artistes, entre les musiciens et mm-hmm. c'est principalement eux que tu aides.
J'ai beaucoup, oui, après pas que, mais oui, j'ai beaucoup de personnes qui ont un côté effectivement, enfin très créatif.
Tu les aides à dompter ce qu'on appelait autrefois le trac. On n'utilise plus du tout cette expression, le trac. J'ai le trac.
Ah ouais, ça. Bah,
tu vois quand on c'est une vieille expression ça.
Ouais, quand tu devais plonger 8 mètres, ouais, effectivement.
Bon, après c'est très souvent, il y a très souvent un travail important de fond, c'est-à-dire que comme je l'ai dit, la force vient de la paix intérieure, et c'est la vérité. Sinon on tombe dans certains patterns où on fait certaines erreurs. Donc on fait toujours un travail de fond important pour être certain que la personne est dans les meilleures dispositions, qu'il y ait rien qui ressorte derrière le piano ou par exemple à une table de poker, qui n'est pas un mécanisme ou un pattern qui revienne en permanence. Ça peut être de l'autosabotage, ça peut être beaucoup de choses. Et faire attention en fait d'avoir vraiment nettoyé sous les tapis, pour que la personne, quand elle s'assoit à la table, elle soit la meilleure version d'elle-même, même si l'expression est très galvaudée, mais c'est réellement ça, c'est-à-dire travailler sur le passé, enlever la notion d'avenir, parce que ça n'existe pas, donc ça c'est très important à intégrer, et ancrer la personne dans le présent à 100%. Avoir un contrôle aussi sur tout ce qui se passe au niveau mental, au niveau énergétique, même au niveau spirituel parfois. Parce qu'on va connecter, beaucoup de choses autour de soi. On n'est pas
matière,
juste un
sans
corps.
Cesse à explorer, en tout cas, la préparation mentale, oui. et les en soi. Et dire que, puisqu'on parlait du trac, Sacha Guitry réglait ça en une seule phrase, lui.
Il disait quoi ?
Bah, ces jeunes étudiants au théâtre, donc on est début du 20e siècle, il y a cette anecdote d'un jeune étudiant qui vient le voir, qui s'apprêtait à monter sur les planches pour la première fois, et qui lui disait « Maître, c'est très étrange, je n'ai pas le trac. » Et il lui a répondu « T'inquiète pas, ça viendra avec le talent. »
Oh là là. Moi, je pensais qu'il allait dire « C'est normal, tu joues pas ce soir.
» Ah, au Real, Daniel me dit que c'est Louis Jouvet. Je pense que c'est Guitry. Tu penses que c'est Jouvet ? Pour moi, c'est Sacha Guitry. Oui, on est de toute façon, que ce soit Louis Jouvet, Guitry, c'est du haut niveau, mais je pense que c'est Sacha Guitry.
C'était pas un chanteur, Jouvet.
Ce côté caustique, un peu dur comme ça ne pouvait être que Sacha Guitry. Merci beaucoup, Claire Reynaud, d'être venue dans le
top. Franchement, j'ai kiffé.
On a adoré ton papier. Et reviens quand tu veux. C'est
magnifique.
Une matière dont on parle très souvent dans le RMC Poker Show, le mental, parce qu'évidemment, un jour, il faudra que je m'y mette.
Ouais, super plume.
je serais ravie de revenir. Eh ben, parler d'autres sujets liés à les articles sur Live Poker. Il y en avait un que j'avais fait aussi sur l'intuition. On peut aussi en parler.
Ah bah, je veux dire, sur l'intuition.
Ah, l'intuition.
Ah, ouais, oui.
Au début, j'ai cru à un autre mot, j'ai eu peur.
Quoi ?
Merci Claire. À bientôt, on revient dans
RMC
Poker Show.
Avec grand plaisir.
Merci
pour
le
temps de la pause.
J'ai kiffé, je peux le dire.
Et Benoît Grobo-Coppatel reste avec nous.
Obligé.
Et puis, Pitavi, dans un instant, dans le RMC Poker Show, c'est la nouvelle vedette du Team Winamax. À tout de suite. Ah,
jusqu'à 1h, c'est RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Moundir.
Deuxième partie du RMC Poker Show, les amis. On est toujours avec Benoît Grobo-Coppatel.
Oui,
avec nous, le king du circus. Ah,
le frérot, l'actionnaire
du circus.
Circus.
C'est vrai que le mec au resto, il m'a dit, on pouvait plus te voir. Hein. C'était tous les jours. Là. Oh, tu as vidé cette.
La vie, pas tous les jours, mais je suis là souvent.
Tu lui as vidé son arrière-boutique de frites.
Ouais, mais il
en peut plus.
Ils lui ont fait quand même une innovation quand il est revenu de sa cinquième place à l'EPT. Hein.
Et Thierry m'a envoyé un message, il m'a dit, il nous vide les caisses. Il gagne tout. On n'en peut plus de lui.
Ah là là. Bon, salut Thierry, bien.
Moundir !
Oui !
Quelque part, et plus que quelque part, c'est ta team aussi, la team Winner.
Ouais,
hein,
ouais,
même si t'es pas dans le team pro.
Je le serais.
T'es dans le team semi-pro.
Semi-pro de WIP.
Semi-pro. Eh bien, il y a. Combien ils sont maintenant ? T'as compté ou pas combien ils sont de pro dans le team ?
Ah, je crois qu'ils doivent être.
J'ai l'impression que chaque année, ils sont un de plus.
Je vais dire, en comptant Patrick, parce qu'il est toujours sur la fiche, et c'est toujours l'ami, je vais dire 15.
Est-ce qu'Emilien Pitavi est le 15e ou le 16e?
Je pense qu'il est le 16e.
Salut Emilien.
Salut.
Salut champion.
Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, mais moi je vous entends assez mal, je vous avoue.
Écoute, nous on t'entend bien. Donc on va essayer comme okay. Ça. Il faut dire que tu es très loin. Tu es en Corée du Sud, où tu joues les Tritons. Et donc on a appris lundi, bon, j'imagine que tu devais être au courant depuis plusieurs jours maintenant, que tu intègres le Team Pro Winamax. Raconte-nous un peu comment ça s'est fait. Comment t'as été approché et pourquoi finalement tu as accepté?
Du coup, les premiers échanges avec Stéphane Matteux, donc le responsable de la team, ils ont eu lieu fin janvier. Mm-hmm. J'ai reçu un message de sa part. On a échangé assez rapidement et puis il s'est rendu compte que le profil correspondait à ce qu'il recherchait, je pense. Bah, de toute façon, il me connaissait un petit peu d'avant. Et du coup, j'ai eu une confirmation, hein, on va dire un mois plus tard. Et ensuite, je me suis rendu à Paris pour le PT, où j'ai joué quelques tournois, mais c'était aussi pour aller du coup finaliser tout ce qui était la vidéo de présentation, etc. Donc du coup, bah voilà, ça a été officialisé lundi, ouais. avec un réel sur Instagram du coup qu'on avait fait quand j'étais à Paris. Et là, bah du coup, premier festival. Avec le logo à Jeju, je me suis envolé mardi directement après. Donc voilà, ça fait bizarre.
Est-ce que tu as été étonné qu'il t'approche?
C'est la première fois.
Est-ce que tu as été étonné qu'il t'approche, qu'il te veuille dans l'équipe?
Étonné, oui et non, parce que en fait, il y a un an, j'avais fait une grande interview avec Winamax où j'expliquais un peu mon parcours. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit que peut-être mon profil pouvait les intéresser à l'avenir. Dans un coin de ma tête, j'y pensais, mais on est toujours étonné quand ce genre de choses arrivent. Du coup, bah oui, je m'y attendais pas à ce moment-là, quoi. Mais en fait, je m'y serais jamais attendu, on va dire.
Mais tu veux dire, mais toi, en revanche, ça t'a motivé immédiatement, parce que je disais tout à l'heure dans la présentation avant que tu sois là, j'imaginais pas forcément un profil comme le tien, parce que t'es dans les high stakes, t'as l'impression d'être dans ton monde à toi, t'as été coach, maintenant tu coaches plus. Bon, à part qu'on te sait très proche de Pierre, qui est donc de Kalamusa, qui est un membre éminent de cette équipe, je te voyais pas trop dans un team. Visiblement, je me suis trompé, parce que c'est quelque chose que toi, tu voulais.
C'était pas forcément un objectif de carrière principale, on va dire, mais c'est un plus. Et en fait, pour moi, le Team Winamax, ça représentait quand même vraiment cette notion de prestige, de performance, et c'est ce qui me plaît dans cette team. En fait, c'était pour un joueur français qui commence sa carrière, le Team Winamax, ça symbolise quand même une réussite. Comme je disais à Stéphane, je trouve qu'ils ont, au cours de leur existence, ils ont toujours réussi à attirer parmi les meilleurs joueurs français de leur génération, de génération en génération, on va dire. Mm-hmm. Et du coup, c'est vraiment une fierté d'en faire partie à partir de maintenant, quoi.
Donc tu prends, t'es fier d'intégrer cette team, c'est quelque chose qui te rend heureux, donc parce que ta vie va changer dans le sens où maintenant tu portes un logo, t'es dans une équipe, t'as des obligations.
Eh oui.
C'est pas la même histoire quand même.
Bah c'est ça en fait, la première réaction un peu facile, c'est de se dire c'est de la fierté, c'est une récompense, etc. Mais en fait, tout de suite est venu aussi le côté responsabilité, parce que je pense que bah du coup, représenter la marque, comme je disais, en fait la marque est tellement puissante dans le poker français que je pense que c'est aussi représenter le poker français en général. Et du coup, bah voilà, c'est une grande responsabilité vis-à-vis de la communauté. Il faut arriver à, je pense, à jongler entre à la fois le côté performance sur les tournois les plus chers du monde, mais aussi être proche de la communauté, que ce soit via les événements Wina ou via tout le contenu qu'on va créer pour la communauté. Donc voilà, c'est ce deuxième point est arrivé assez rapidement quand même de mon côté, quoi.
Il y a un peu de promotion du poker aussi quand on est membre du Team Wina, et on est un peu un ambassadeur du jeu en général.
Oui, clairement. Alors moi, j'aimerais vraiment être, promouvoir ça d'un point de vue vraiment discipline sportive, on va dire, sport mental, un peu de la même manière que le fait Adrian côté espagnol. Mm-hmm. Être vraiment dans le côté compétition avec les meilleurs. Et c'est vraiment cette image que j'ai envie de promouvoir du poker.
Emilien, tu as été l'un des premiers Français à intégrer justement le collectif de Fedor, hein, qui vient d'annoncer qu'il arrêtait avec GG Poker.
Tu étais très proche de Fedor, c'était une forme de mentor même.
Une forme de mentor et tout, mais tu as passé des sélections aussi, je veux dire, ça ne s'est pas arrivé tout de suite. À quel moment, et moi c'est une question en plus que je voulais vraiment te poser, à quel moment tu bascules entre un joueur, on va dire un joueur online, à un joueur high stake? À quel moment on fait la bascule? Parce qu'il faut l'argent, il faut le courage. À quel moment tu bascules là-dessus?
Moi, ça s'est fait quand même assez naturellement. En fait, le truc, c'est que online, c'est bien. À la base, c'est ce qui me plaît le plus. Mais le problème, c'est que au bout d'un moment, en fait, les tournois les plus prestigieux et les plus relevés, on va dire, sont en live. Donc en fait, au bout d'un moment, moi j'en avais parlé avec Fedor il y a peut-être 2 ans, au moment où j'ai commencé la transition, c'est qu'il me disait tu verras. Au début, je prenais pas forcément trop de plaisir en live. Et en fait, il m'a dit tu verras à terme, tu t'arriveras à prendre du plaisir dans le fait d'être en compétition avec les meilleurs, d'avoir beaucoup plus de temps pour réfléchir à toutes tes actions, essayer de vraiment d'être dans la recherche de la perfection. Et en fait, petit à petit, avec l'expérience, en enchaînant les lives, j'ai commencé à prendre de plus en plus de plaisir. Et aujourd'hui, voilà, mes objectifs de carrière, ils sont beaucoup plus axés sur le live parce que c'est là où, comme je disais, c'est là où on gagne des titres, c'est là où il y a les classements, etc. Et c'est ce qui me donne envie pour la suite, quoi.
Tu vois, ça, Daniel, tu veux pas sur iStack, c'est ce qui te reste à faire.
Et l'obligation de résultat, alors? Est-ce que ça se discute avec Steph? En gros, l'idée, c'est pas non plus qu'un membre du Team Wina il fasse zéro résultat, quoi. Il faut. Et on sait que dans le poker, c'est quand même un peu aléatoire, même quand on joue très très bien. C'est évoqué, ça, à un moment?
Évidemment, moi, enfin. C'est sûr, non, on n'en a vraiment pas parlé de ce point de vue-là, mais c'est évident que si Winamax m'a voulu que je rejoigne l'équipe, c'est aussi parce qu'ils veulent que du coup je performe sur ces tournois-là. Moi, honnêtement, enfin, c'est vrai que ça rajoute une petite pression, mais au final, comme tu dis, au final, le poker, ça reste quand même très variancié. Il n'y a pas que moi qui vais décider de ça, surtout sur une année pour commencer. Sur aussi peu de temps, on est sujet beaucoup à la variance. Moi, je me fixe plus une obligation de moyens, on va dire, c'est-à-dire que je dois faire, maintenant que je suis ambassadeur auprès d'une marque, je dois vraiment faire les choses du mieux possible au jour le jour dans mon quotidien pour performer sur ces tournois-là. Et je suis sûr que si je fais correctement les choses, il y aura forcément des performances qui vont arriver.
Ouais, Emilien, tu sais, tes confrères, ceux qui ont été chez Wina et qui ne le sont plus, d'accord, qui ont été grands joueurs ou grandes joueuses, ils avaient toujours cette manière à dire qu'ils en avaient un peu marre du fait de faire des prestations, en tout cas de respecter leur contrat par rapport à quand tu passes d'un tournoi à 100 000 et devenir, je sais pas, par exemple pour le Winamax Poker Tour, le lancement où on vient jouer face à des joueurs amateurs, un tournoi gratuit. Donc ça, c'est des choses qu'ils n'arrivaient plus à supporter. Toi, comment tu vas le vivre, par exemple, de passer...
Il reviendra dans 3 ans et on lui posera la question.
Non, mais parce que c'est des questions à se poser, parce qu'au début, tout est beau quand on signe chez Wina. Mais après, quand on rentre ensuite pour respecter ses engagements, c'est autre chose. Et la question, elle est, et même si je pense l'avoir, comment toi, tu vas t'adapter à ça, par exemple?
C'est vrai, c'est une bonne question. Sur le papier, pour l'instant... je sais pas exactement, parce qu'en fait le truc, c'est que j'ai jamais vraiment joué ces tournois-là, c'est Live Wina, okay. parce qu'en fait je suis rentré dans le monde du live directement par les high stakes. J'ai pas trop fait le circuit français des 500 aux 2000, quoi.
Ah oui, alors
C'est quand même quelque chose qui me donne envie, parce que comme je disais, il y a ce côté aller à la rencontre de la communauté, il y a aussi ce côté un peu fun qui moi m'a manqué tout au long de ma carrière, parce que j'ai toujours abordé le poker quand même d'un point de vue très sérieux, et je pense que ça fera du bien aussi d'avoir des périodes un peu comme ça où c'est un peu plus détente pendant une petite semaine.
Ah oui, là, ça va être détente
la rencontre des gens, voir d'autres voir d'autres visions, et puis voilà, rencontrer des gens, quoi.
Maintenant tu vas avoir un calendrier qui va être un peu modifié. Il va y avoir un Vegas avec le séminaire tous ensemble.
Oui.
Effectivement, pas mal Monaco de choses vont quand même changer dans ta vie, Monaco. Et ah oui, non, si, question importante quand même. Est-ce que Steph t'a prévenu que maintenant que tu étais dans le team, il y a une séance de coaching gratuit qu'il faut me donner 2-3 fois par an?
On n'en a pas discuté, mais ça se négocie.
Comment ça?
Voilà!
Steph, t'as pas dit?
Ouais.
Ah non, alors là, il y a un problème.
Annonce-lui le chiffre, comme ça, ça va vite
non,
te calmer.
Non, c'était une séance gratos. Steph a négocié.
Ah, ouais, d'accord.
Steph, il a dit dans ton contrat Wina, il y a 3 séances par an
pour Daniel,
voilà et tout.
D'accord, ok.
Voilà. Et tu dois juste manger une fois avec Mundir, c'est tout.
Ouais, mais ça me dérange pas. C'est pour moi, Emilien.
Ouais, ça passe.
C'est pour moi.
Emilien Pitavi, nouveau membre du team pro Wina. Et donc, ils ne sont pas 16, ils sont 12. C'est 12. Le 12e homme.
Eh ouais, bah tu vois, ça c'est
le 12e homme, Emilien. Merci beaucoup, ouais. Emilien. À bientôt.
Good luck.
Merci à vous. Et puis, bah, au plaisir de se voir du coup sur les événements Wina.
Avec plaisir.
Bien sûr, et nous, on se retrouve dans un instant pour la 3e partie et le Dans la tête d'un fiche avec en prof. Benoît.
Ah ouais, l'homme.
Il a intérêt à être bon. Hein. Il a intérêt à être bon. Allez, à tout de suite.
RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Mundir.
Voilà la suite, la fin du RMC Poker Show. Jérémy est arrivé.
Bonsoir les amis, bonsoir à tous.
Dis-moi Jérémy, comment ça se passe le podcast pêche?
Ça se passe très bien.
Ah ouais, j'ai vu, super. Enfin, les gens vont connaître ta vraie passion. C'est pas le poker, c'est la pêche, ta vraie passion.
J'en ai plein, il faut en avoir plusieurs.
Oui,
mais le fait d'être au bord de l'eau, ça me détend.
Ta numéro 1, c'est la pêche ou pas?
Ouais, je pense que c'est la pêche.
Ah,
ça me permet d'arriver détendu au poker.
Est-ce que tu donnes des recettes dedans?
Ah non, mais je pourrais.
Tu dis le bar que je pêche, vous pourrez le faire à manger comme ça.
En ceviche, c'est une bonne idée, effectivement. On pourrait faire une recette chaque
C'est bon, c'est vrai. Pourquoi t'appelles ça ceviche? Tu peux pas carpaccio dedans.
Alors carpaccio et ceviche, c'est pas pareil.
Exactement.
Ouais.
Pourquoi c'est pas
tu regarderas, je t'en parlerai après l'émission, mais on va parler poker, mais c'est pas pareil le ceviche et le carpaccio.
Non, alors excuse-moi, je veux absolument que tu me le dises tout de suite.
Parce qu'il a.
En deux mots.
C'est trop trempé.
Carpaccio, c'est des tranches très fines avec un filet d'huile d'olive et
exactement,
du citron.
Exactement. Et les tranches du ceviche, c'est des espèces de morceaux plus carrés, si
ouais,
tu veux.
Plus carrés, un peu comme.
Ah oui,
c'est
pas découpé de la même façon.
C'est pas découpé de la même façon. Mais ça reste une espèce de macédoine, comme une macédoine, si tu
okay,
veux. Le ceviche
et
dans un
petit,
et dans un petit bol, alors qu'un un carpaccio,
mais c'est du poisson cru.
Mais c'est du poisson cru.
Ok, j'ai compris.
Voilà. Ah ouais, vous êtes vraiment des top reg, hein, dans poisson.
On est là à fond. Bon, Jérém, nous n'avons pas de Pierre Calamusa cette semaine.
Non, ouais. On n'a pas parlé de l'actu d'ailleurs. Hein,
oui,
ça bien de le faire.
Oui, exactement. On avait dit Feder tout à l'heure.
Alors là, et s'il avait pu mettre un coup de règle sur les doigts,
il
me l'aurait mis.
Bon,
on n'a pas parlé de l'actu. Attention, attention, l'actu.
Je ne l'ai pas.
Je voulais juste dire que le coach allait être Benoît. C'est bien beau d'être le patron du circus.
Patron, mais là,
il va falloir un peu envoyer.
Ah oui, mon
Lulu. Il va falloir nous envoyer un peu des explications. Bon, l'actu. Federal, si GG Poker.
Ah oui.
Ça vous touche, ça vous intéresse, Benoît, ça t'intéresse?
Non, il y a une raison, parce que
non, maintenant,
il veut faire un enfant avec sa femme. Et en plus, il veut monter justement un gros fonds d'investissement. Donc, tu vois, il veut passer vraiment à l'étape au-dessus. Donc, c'est un peu compréhensible.
J'ai l'impression que Federal, s'il aime le gros blé.
Ah bah.
Il en a gagné beaucoup.
Il en a gagné beaucoup. Hein. Et pas que au poker. Hein. Pas que au poker. Hein. Pas que au poker. Eh, Sony Franco, énorme. Hein. Eh oui. Vainqueur du Main Event
chez lui.
FPO chez lui.
Sony Franco à domicile. Faut
à
pas
domicile.
Le jouer,
eh oui, les copains.
Faut pas le jouer chez lui. Hein.
Que vous pouvez retrouver aussi dans la série avec Partouche lorsqu'ils sont à Vegas, hein, qui est super.
Ouais, c'est un régal.
Franchement, c'est mortel.
Franchement,
hein.
C'est un régal.
Bah, tu vois, voilà, il remporte 40 000 euros. Hein. Et ouais, c'est bravo à toi, hein, Sony. Bravo.
Et le rendez-vous qui va pas tarder à arriver, hein, la grande finale du Winamax Poker Tour. Tu n'oses pas, Mundir. Je pense que t'es là, même la veille, s'il paraît que t'installes les tables.
J'installe les tables et je compte les jetons, bien évidemment. Et j'attends, bien évidemment, aussi ta venue. On a pas mal de choses.
On arrive avec Jérémy. Tu nous invites
tout
à déjeuner
prêt,
tout de suite.
Il y a pas les mêmes brochettes.
Il y a le déjeuner. Non,
ah,
les brochettes, c'est Marrakech.
C'est Marrakech. Ouais, ben je t'invite.
Alex, je veux pas les brochettes.
Ça va.
Tu me fais une petite salade quand on arrive. Après, on va jouer.
Avec
14h.
14h.
14h. Le main.
On va ensemble.
Le vendredi.
Tout est prêt.
On y va.
Et tout est frais.
Et Prague la semaine d'après. Vous avez fait vos plannings pour Prague d'ailleurs. Je sais pas quel tournoi il y a.
Il y a un seul tournoi qu'on peut faire, donc il y a pas un programme de malade à faire.
Il y a un 500 et un 1500 à voir.
On dira Greg pour le 1500, je pense, non?
Non, à voir.
S'il y a de la place, il y a de la
place. Pas, je sais pas. Moi, je n'ai pas encore totalement regardé. Chaque chose en son temps.
Tu seras là, Benoît?
L'important, c'est de prendre les matchs les uns après les autres. Et l'important, c'est les trois points.
C'est pas sûr.
Ex, oui, mais Prague, pas sûr.
Non.
Ah non. Ex, obligé.
Eh bien, tu sais quoi? On va te donner le billet pour Prague si tu es un bon coach maintenant.
Jingle.
Dans la tête d'un fiche.
RMC Poker Show.
Dans la tête d'un fiche.
Parce que mon petit coco, si tes explications sont pas bonnes, tu peux rester, on t'invite pas à Prague. Non. On veut pas de toi. On veut pas de toi.
Le PT Paris, messieurs, comme la semaine dernière.
C'est à domicile pour lui.
On y retourne, mais cette fois, c'est celui de 2024. 29 joueurs encore en course. On était 1747 au départ. Déjà un bon petit chèque assuré. 9 joueurs à table, on a un tapis de 1,1 million.
On est à combien left?
On est 29 joueurs encore.
Ah, d'accord.
On était 1700 ou 1800 au départ.
Ah, on est bien.
9 joueurs à table, on a un tapis de 1,1 million, aux blindes 15 000, 30 000, plus de 35 blindes. Il y a eu une relance du joueur UTG à 60 000, il a un stack de 650 000.
L'UTG ouvre.
Il fait 60 000, il fait x2 sur les blindes 15 000, 30 000. Nous, on est juste après, on ouvre As-Valet de carreau. Daniel, c'est à toi que je parle. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu lui reviens dessus, sachant que c'est une relance UTG, ou tu vas juste payer ? 9 à table. J'ai pas mal de joueurs à parler derrière.
Nous, on a 35 blindes à la table. On a des infos.
On est pas mal.
On est bien. Ouais. Le mec, l'UTG, il est costaud.
UTG, il a 650 000, donc il a clairement moins que nous. Et derrière, il y a des gros tapis.
As-Valet suité.
As-Valet à carreau.
Et je suis UTG plus 1.
Ouais. T'es UTG plus 1, exactement. Le joueur UTG a fait x2 sur la blinde.
Mais oui, ça flatte, ça colle. Bah oui.
C'est colle chez Daniel. Moundir, qu'est-ce que
tu fais? Bah oui, totalement flat. Aucun intérêt de faire gonfler.
Benoît, toi qui es un peu foufou à la table, il n'y a pas un cas où tu lui reviens dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais vas-y.
Moi, il y a eu un cas où j'ai quand même réfléchi.
On
va parler derrière.
Ça me paraît pas dingo de le faire.
Surtout, je pense à 29 lèvres d'un EPT. J'aurais collé moi aussi.
C'est payé?
Surtout sur relance UTG, j'aurais collé aussi.
C'est ce qu'on a fait, on a payé. Le cut-off va s'inviter également. Le cut-off, il est chip leader avec 1,6 million de jetons. Fold du bouton et des joueurs en blinde. Le pot fait 255 000. Le flop, 5 de pique, valet de cœur, 4 de trèfle. Check du joueur UTG, du coup le relanceur initial. Et c'est à nous de parler. Daniel, je rappelle le pot, 255 000. Check du joueur UTG, le relanceur initial. Qu'est-ce qu'on fait?
Bah écoute, ça va vous sembler un paradoxe, mais je me sens presque mieux que si j'avais vu un as. Parce que par rapport à l'UTG, je mets plus sur un as, voire un as plus fort que le mien, le valet, j'ai l'impression que là, j'enfile des chaussons. Donc je suis pas mal. Donc lui, il check. Le 5 et le 4, ils sont pas suite. Enfin, c'est pas les.
Non, 5 de pique, valet de cœur, 4 de trèfle.
Il y a rien.
Rainbow.
Écoute, je suis pas sûr de prendre l'initiative tout de suite là, donc je vais check.
Donc tu check back, Moundir.
Moi, je vais pas check back. Au contraire, je vais mettre un tiers.
Un tiers de 255 000, ouais. D'accord. Ce qui fait à peu près 70 000, 80 000.
Ouais.
Benoît.
Moi, j'aurais mis aussi un tiers, je pense.
Il y a pas un cas, c'est pas ce que fait Daniel là, le
c'est une erreur de check.
C'est une erreur.
Non, je dis pas que c'est une erreur, mais bon, mettre un peu de pression à l'UTG, comme on sait qu'il a un petit tapis. Comme ça, je pense qu'on peut lui mettre un peu de pression sur lui déjà. Et surtout, je pense que si on check, cut-off, si c'est le chip leader, il va nous mettre une pression. Ouais. Et il va peut-être faire grossir le pot à sa sauce à lui. Et là, on va être plus emmerdé.
Nous, on a fait 90 000, donc pas très loin de ce qu'a fait Moundir. 90 000 dans 255 000. Et le cut-off, Benoît en parlait, va nous relancer à 240 000. Fold du joueur UTG, du coup, le relanceur initial. Et la parole nous revient. Daniel, qu'est-ce qu'on fait? Sachant que tu n'avais pas misé et que tu aurais... checker.
Oui, mais là, pour le coup, moi, faut que je raisonne comme nous, le mec qui a mis des jetons et l'autre, il raise.
On fait 90 000 et le cut-off fait 240. Qu'est-ce que ça veut dire?
La première réaction, c'est que je m'y attends pas à ce qu'il fasse ça.
Sur quel genre de main on le met?
Et sur quel genre de main
le
je
board,
le mets?
Valet,
j'avoue
valet,
que.
Valet 5.
5 de pique, valet de cœur, 4 de trèfle.
J'avoue que sur quel genre de main je le mets, s'il avait eu dame, roi, as, bon, il aurait 3 bêtes, il avait juste collé.
Même Brelan, il doit flat. Là.
S'il a Brelan, s'il avait une paire, bon, ok. Coller, s'il avait les 5 ou les 4, il aurait fait. Ouais, je colle, ouais.
Coller chez moi. Colle, ouais. Coller chez moi aussi.
Benoît.
J'aurais collé aussi. Pas plus. Parce que je pense qu'il veut nous mettre une pression supplémentaire parce qu'il se dit que l'ICM, je pense qu'il va commencer à être important et que.
Il est chip leader, même s'il
est chip leader, il nous couvre, il est en position sur nous. Il veut nous mettre un peu de pression. En plus, il se dit qu'il y a quand même un pot au milieu. S'il nous fait coucher là.
Après, s'il a 5 et 4 suités, au revoir monsieur.
Ouais.
Voilà. Bon.
C'est ce qu'on a fait. On a juste payé. Le pot fait 735 000. Turn, 3 de cœur. C'est un deuxième cœur. Et c'est à nous de parler, du coup. Le check me semble évident, mais je ne sais pas. Vous avez peut-être une autre.
Bah, là, maintenant, moi, comme est le idée. Truc, j'ai l'impression que. j'ai l'impression que ça va aller un peu au bout, cette affaire-là. Je vais check.
C'est impressionnant d'entendre cette phrase toute la semaine.
Ça va être un check call.
Ça va être un check.
Les mystères de l'Ouest avec Daniel.
Un check call.
Bah ouais, forcément. Un check, bien évidemment. Check.
Bah, mais en même temps, toutes les semaines, c'est la bonne décision, là. Que disent d'autres.
Carrément.
Check call.
On est OK sur un check. C'est ce qu'on a fait. On a check. Et lui, on ne s'y attendait pas. Il a check back. Turn. River 9 de pique. Est-ce qu'on reprend l'initiative sachant qu'il a check et que ça peut être un
non, moi, je sais pas. Je peux rien, ce sera un check call. Quoi qu'il fasse, je vais coller.
Quoi qu'il fasse, je serai collé. Même s'il met tout. Check chez Daniel.
Encore une fois, s'il avait paire de 5, il a fait brelon, ou s'il avait 5 et 4, 8 et, j'étais dans le cul, au revoir tout le monde.
Est-ce qu'il aurait check turn? Je sais pas.
Bah, c'est pour ça, en plus. Donc,
check pareil.
Benoît.
Check. Ouais, en fait, faut penser, je pense qu'il y a, deux possibilités. Soit la première, on se dit, on va le laisser bluffer, on va coller tout ce qu'il va mettre et. Et ça, ou soit on se dit, est-ce qu'on a de la value et il va peut-être checker, mais bon, je pense que j'aurais check aussi, ouais. Check call, ce qu'il va miser.
Eh ben, nous, c'est pas du tout ce qu'on a fait. On a repris l'initiative, sans doute rassuré par ce check au turn, et on a fait 385 000 dans 700.
Il nous est revenu sur la tronche?
Dans 700.
Il a fait tapis?
Et il a réfléchi une minute et il a tout mis au
milieu.
Eh
ben, c'est payé.
Ah oui? Voilà. Donc, parce que là, c'est encore différent. Donc c'est payé chez Daniel. Moundir.
Attends,
parce que là c'est compliqué quand même.
Ah ouais, attends, c'est quand même.
Bah, dites-moi pourquoi vous êtes battu. Moi je veux bien qu'on soit battu, mais expliquez-le moi.
C'est soit il a full, soit il a rien.
C'est vous les meilleurs. Ah,
en fait maintenant, si
il peut pas avoir full, il y a pas de doublette.
En fait, Rivière maintenant,
il y a pas de doublette.
Comme on a relancé,
il a
peu de bluff maintenant. S'il a un valet, il va coller.
Ouais.
Si par exemple il avait roi valet, une main combat, il va coller, je pense. Quel est l'intérêt pour lui de mettre tapis à ce moment-là?
Parce que peut-être que dès son raise sur les 90 000, peut-être que il est parti dans une histoire avec un 5 ou avec As 5, As 4, un truc dans le genre. Mais je me trompe probablement, hein. Ou Dame Valet, ou. En fait, je n'arrive pas à voir là avec quoi on est battu.
5, 4, 3.
5, Valet, 4, 3, 9. Avec quoi il nous bat? Dites-moi avec quoi il nous bat.
4.
Moi, je suis le nul de l'histoire, donc dites-moi.
Avec 6 et 7.
Ah, il a pu frapper.
Avec 6 et 7.
Il a pu frapper sa gueule. Hein.
4, 5, 6.
Et il peut te revenir dessus avec tirage quinte par les deux bouts.
Ouais.
Je vais
ça, bravo.
Au Breland d'ailleurs, mais pourquoi il aurait checked
ouais,
je ne sais pas.
S'il avait peut-être.
Je crois que. Attends, normal, j'en serais arrêté, mais je vais fold.
C'est un fold chez moi.
Ouais, parce qu'à 29 left, il peut pas 29 là.
Moi, j'aurais check pour payer sa relance, ouais, mais maintenant, mais le coup, comme il a été joué, je pense que j'aurais fold aussi.
Fold,
parce que c'est vous qui avez raison, c'est moi qui ai tort.
Eh ben, nous aussi, on a fini par fold, et Daniel a bien fait de payer. En face, il y avait paire de 6. Il a mis une pression maximum et il nous a fait fold.
C'est pour ça que je pense que.
Moi, je ne peux pas dire qu'on battu, en fait.
La turn, pourquoi faut checker? Parce que, tu vois, si tu check pas la turn, en fait, tu lui fais un tremplin pour après te mettre dans une situation compliquée.
Et moi, je suis désolé, je vous repose la question, je n'arrivais pas à comprendre avec quoi on était battu dans l'histoire. Dites-moi.
Ouais, imagine-toi, ce balai, il a fait ça avec paire de 6, mais s'il avait fait avec ça avec paire de 9, il aurait fait pareil. Enfin, ouais. Il a fait ça avec paire de 6, tu vois un exemple.
6, 9, 10, pareil.
Non, c'est pourquoi on mise river, en fait. Je pense que la connerie, c'est
de. C'est de miser river, bien sûr.
Oui.
C'est de le laisser faire et de
on check
de payer, tout à fait.
Et il y aurait plus de value, en plus.
Mais souvent, ça, les gens, ils font beaucoup cette erreur-là, et les bons joueurs, ils servent de ça comme un tremplin. Il y a des joueurs, des fois, sur des tournois, ils disent j'abandonne. Et en fait, à cause de l'autre qui l'a pas checké, il mise, alors il se dit, ah non, il a pas grand chose, je vais essayer de lui mettre une pression et il va récupérer la gagne alors qu'il avait pas la gagne.
Mmh. Et moi, j'ai une question à te poser dans le dernier épisode de Dans la tête d'un pro. J'ai vu David Ikitaï qui frappe brelan. Le mec continue à miser, il fait un c-bet au flop et il lui revient tout de suite dessus, David Ikitaï, avec brelan.
Pour faire gonfler le pot.
Ouais, pour faire gonfler le pot, parce qu'il pense
mais
que.
Mais moi, j'ai toujours peur de le faire partir oui. Et j'aurais jamais tendance à
mais
le relancer
en fait, je pense
avec
que ça dépend aussi le flop, la personne. Par exemple, imaginons que toi, t'as paire de 4 et que c'est un joueur serré qui relance et ça fait As 4, 8.
Ouais.
T'as beaucoup de chance qu'il a frappé l'As. Peut-être la personne a As 3 en face. Alors, il veut faire grossir le pot tout de suite. Maintenant, si le flop vient 2, 4, 8,
ouais.
Tu vois, peut-être que là, il aurait joué différemment.
Le profil, oui, si tu vois une grosse carte.
Ouais, mais le profil du joueur, c'est l'américain qui rentre dans tous les coups et compagnie. Et donc, il a raison.
Bien sûr, il a raison de faire grossir tout de suite le pot. Oui.
Là, il a raison, largement. Okay. Bravo. Daniel, t'as gagné, hein.
Bravo, Daniel.
Voilà.
T'es encore en course pour le titre pété.
Ça y est, hein. Bravo.
Merci, les amis.
Merci,
bonne semaine à tous.
À vous aussi. Bonne soirée, les gars.
Ciao.
Allez, minuit, 1 heure.
C'est le RMC Poker Show.